This is where the nits become les nits. Les nits en France, vu par des amis, des fans, des musiciens, des collaborateurs et des journalistes.
La chanson, c'est une sorte de petite maison à l'intérieur de laquelle des choses se passent, des personnages bougent. Et tout ça, c'est extrêmement méticuleux, c'est très très bien fait. Ça ne pourrait pas être fait par d'autres gens que... En tout cas, à une époque, je pense que ce groupe a été vraiment parfait à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la composition, au niveau des mélodies, de la production, du visuel, des clips, tout était parfait, quoi.
Dial Nits, un épisode du podcast en langue française.
Une petite allumette, une petite allumette, allumette dans le béton. Une petite allumette, une petite allumette, allumette dans le béton.
Dial Nits, a podcast about the Dutch band Nits. A celebration of five decades of sophisticated music from the Netherlands. Your host, Eric Facon.
Passer des heures dans ce train, et j'ai traversé Bruxelles en chemin, bientôt Paris, où je reviens. Mais les ombres des tracteurs à travers, et ma vie qui change monde.
Kent, chanteur, auteur, compositeur, interprète, dessinateur de BD, auteur de romans, nous le retrouvons dans le jardin de sa maison près de Paris.
J'ai connu les Nits en tant que groupe simplement lors d'un festival auquel je participais, qui était un drôle de festival où il y avait 5 plateaux qui se suivaient de ville en ville avec 2 artistes par plateau. Alors moi je faisais partie d'un des plateaux et les Nits faisaient partie d'un autre plateau avec le groupe Gamine, c'était en 1989. Et donc, quand j'ai fini moi, ma tournée, qu'il restait encore d'autres dates des autres plateaux à Paris, je suis allé au concert de Gamine. Et je connaissais pas les Nits. Et je pensais que les Nits passaient avant Gamine. Donc je suis arrivé en retard. Et puis en fait, ils avaient inversé l'ordre de passage. Je suis arrivé, Gamine était sur scène. Et ils ont fini le morceau, ils ont dit bonsoir, ils sont sortis. Et là, c'est les Nits qui sont installés sur scène. Et je connaissais pas du tout, alors j'étais très déçu. Parce que c'était pas eux que je voulais voir. Et j'ai un ami qui m'a dit, tu devrais rester, ça va t'intéresser. Et je suis tombé complètement sous le charme. À partir de là, je les ai suivis. Voilà. J'ai fait leur connaissance parce que très peu de temps plus tard, il y a eu un festival, ce fameux festival européen, dont je ne me rappelle plus du nom générique en fait, qui était organisé par la personne qui me faisait mes concerts à l'époque et qui a fait justement qu'on s'est trouvé à la même affiche. Et du coup, on a joué le même soir et on a fini la soirée sur scène en chantant All You Need Is Love ensemble.
Ben, il le fallait bien, un tout petit peu de Beatles par soirée.
C'est ça, oui. Surtout de leur côté, parce que moi, les Beatles, j'étais assez long à la détente, pour tout te dire, quoi.
D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a frappé alors avec ce groupe? Parce que t'es tombé sous le charme.
C'était direct, c'était les mélodies, les arrangements, la façon d'être sur scène. Ça m'a séduit, mais immédiatement, je veux pas décrypté, quoi, c'était comme ça. Mais au point que je suis allé les voir en tournée dans d'autres villes par la suite, quoi. Je me souviens d'un concert à Louvain-la-Neuve en Belgique. Dès qu'ils passaient quelque part, j'allais les voir, quoi. Tout me plaisait, tout continue à me plaire aujourd'hui.
C'est quand même un long chemin qu'ils ont fait à travers beaucoup de styles différents ou d'approches différentes de la musique. Ça a toujours un élément de surprise.
Moi, je vois leur évolution comme un glissement. Autant j'ai tendance, moi, à casser les moules, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à une musique, à certains arts d'arrangement, et puis je vais m'enlacer, je vais passer à autre chose. Et je ne le sens pas chez eux. Il y a un glissement comme ça. Peut-être au début, c'est peut-être un peu plus cassé, l'évolution, parce que bah, c'est normal, quand on est jeune, on cherche, et puis voilà, on n'y va pas par quatre chemins. Mais alors après, il y a ce truc qui s'installe, comme ça, ce style, et puis même s'il change de musicien, parce que c'est quand même une époque où ils vont pas mal changer de formation, quoi, je l'entends pas à l'oreille. Alors est-ce que ça vient de l'écriture de Hank? Sûrement, quoi, bien sûr. En tout cas, c'est une carrière... je trouve ça exemplaire parce que justement il y a une évolution, c'est pas non plus des gens arrêtés. Tu vas prendre, je sais pas, quel disque des années 80 et tu vas prendre un disque d'aujourd'hui, tu les reconnais, mais c'est, ils ont fait du chemin, quoi. C'est pas, ils ne brassent pas la même tambouille.
Adieu, adieu, sweet babo, le train m'est pensé, c'est gars. Adieu, adieu. Sweet Babo, le train m'est pensé, c'est gars, ce soir.
Il y a un moment où je trouve que ça dépasse la musique pop. C'est pop dans la formation. Guitare, basse, batterie, clavier, oui, voilà, il y a ça. Mais après, les références, je trouve du contemporain, de la musique contemporaine dans les arrangements aussi. Et c'est ça que j'aime, parce que c'est un courant que j'aime, la musique contemporaine. On peut les identifier. Ils sont entre la musique contemporaine et la pop, pour moi. Et c'est ce que je trouve novateur. C'est pour ça que ça me fait rire quand on juge la musique pop uniquement dans la musique pop et on dit tel groupe est novateur. Ben non, parce qu'il fait qu'on reprend des éléments pop et les faire à sa manière, alors qu'eux ils sont débordés, quoi, sur ce courant-là de musique contemporaine, avec des dissonances, des morceaux. J'écoutais encore le dernier album là, récemment. Il y a des morceaux à la première écoute qui sont, que je pourrais qualifier de sans queue ni tête pour des chansons, parce que le couplet et le refrain, c'est, tu le trouves pas. Voilà, c'est un morceau qui part et puis qui avance et puis qui se finit. Et là, on n'est plus dans la pop
du tout. Moi, j'avais comme l'impression que c'est comme une œuvre d'art qui est beaucoup plus grande, qui en fait contient tout ce que tu pourrais faire, oui, en tant qu'art.
Oui, oui, ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect esthétique. C'est pas un groupe qui fait de la musique puis une pochette. C'est un tout, quoi. Encore une fois, bon, ben, je pense que la personnalité de Hank est très importante là-dedans, mais c'est à chaque fois, ce que j'aime, c'est aussi les pochettes. Comment elles sont foutues, ce qu'elles racontent. La mise en scène, quand on va les voir sur scène, aussi, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est... Il y a à chaque fois des idées nouvelles, quoi. Et c'est pas artificiel. Donc, c'est pas anodin, quoi. C'est un tout... Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu le faire, parce que on a tous des idées comme ça, mais c'est pas toujours facile à réaliser, quoi. Je crois que ce qui rend ça possible, c'est leur autonomie aussi, ce fameux studio qu'ils n'ont plus et qui leur permettait tellement ça, quoi, de mettre en scène, de mettre en musique leurs idées. C'était un vrai luxe, oui, dans lequel ils se reconnaissent, et donc c'est obligatoirement une personne facile, ou un groupe facile. Et puis tu as l'accident qui s'appelle le tube, et c'est pas parce qu'un jour tu vas être en phase avec ce grand public que tu es en phase pour la vie avec lui. C'est un accident, c'est tout. Il se trouve qu'une chanson correspond à l'air du temps, et tu représentes cet air du temps. Donc voilà, et je pense que ça a été le cas à l'époque de In the Dutch Mountain, et puis qu'après ça ne les a pas fait changer d'optique, parce qu'ils auraient pu se dire oh, ça, on va continuer à faire dans ce sens-là puisque c'est ça qui plaît. Ils ont continué leur chemin, et ben là ils sont sortis de la route, en quelque sorte. C'est un peu comme s'ils avaient croisé ils étaient passés par une bretelle d'autoroute sur une autoroute, puis ils avaient pris la sortie suivante. C'est un peu ça, quoi, tu vois. C'est tout. Après, je pense honnêtement que c'est pas un groupe facile. Après tout ce que je viens de dire, c'est pas un groupe facile. C'est que c'est un groupe qui réfléchit, c'est un groupe qui a une démarche. C'est un groupe, encore une fois, qui ne fait pas ce que le public attend. Il fait ce qu'il a envie de faire. C'est différent. Et ça change bien la donne.
T'en connais beaucoup comme ça ?
Oui, j'en connais beaucoup. Et la plupart sont pas connus. Voilà, c'est tout. Après, je ne boude pas les artistes populaires quand ils correspondent à mes goûts. Ce que j'aime pas, c'est l'opportunisme. Et là, on n'est pas sur ce... On ne table pas là-dessus quand on parle des Nietzsche. Il n'y a pas d'opportunisme chez eux. Il n'y en a pas, quoi. Et c'est ce que j'aime en premier chez les artistes. C'est cette honnêteté-là, quoi.
L'homme avec un manteau prenait le même bateau. La femme avec la valise observait sa mine grise. L'homme avec le manteau quitta son chapeau et dit: je m'appelle Jones et je suis un ange. Oh, 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 oh. Avec une aile cassée, avec une aile cassée.
Alors, comment ça s'est passé? Je crois que c'était un renvoi de balle. C'est moi qui ai lancé la première balle quand je préparais mon album Tous les Hommes, où j'avais cette chanson qui s'appelle Ni plus ni moins. Et dans ma tête, comme c'était un texte universaliste, en quelque sorte, et que je connaissais bien les Nietzsche à ce moment-là, parce que c'est là où j'avais fait leur reconnaissance et que j'étais devenu fan et qu'on avait fait ces festivals ensemble, je m'étais dit, je vais leur proposer la chanson. Je vais même leur proposer qu'ils la jouent, que Hank adapte une partie du texte en anglais et la chanter ensemble. Voilà, ce sera un duo, un vrai duo, duo musical, pas que vocal. Et ça s'est pas fait parce que je travaillais à ce moment-là sur un projet symphonique.
Oui.
Voilà. Je me rappelle plus du titre parce que l'album n'est pas paru en France, cet album symphonique. Je l'ai trouvé en Hollande une fois. Et donc du coup la chanson, je l'ai chantée en français et en duo avec Enzo Enzo. Et donc le temps a passé, 3-4 ans, 5 ans. Et quand ils ont travaillé sur leur coffret de best-of,
ouais.
Il y avait cette chanson inédite, Broken Wings. Et Hank m'a proposé de l'adapter en français pour le marché français, pour en faire un single en français. Et puis dans la foulée, il m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas une traduction de deux autres chansons ?» Donc « Adios Sweet Bahnhof » et puis « Fausse route » qui s'appelle
« The Road Not Taken ».«
Road Not Taken », voilà. Et donc, évidemment, moi, ça m'a emballé tout de suite. J'ai fait ça et je suis allé enregistrer les chansons avec eux dans leur studio d'Amsterdam.
Elle est allée dans la montagne, si haut, je ne la voyais plus. Dans l'intimité d'un nuage si dense, je ne l'entendais plus.
C'est des chansons atmosphériques aussi. C'est-à-dire que c'est visuel dans le sens où ça provoque des visions. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que ça me provoque. Je ne cherche pas à savoir ici un message. Je ne suis pas sûr qu'il en ait. C'est des images, il déambule, Hank, dans ses chansons et dans sa vie. Il y a toujours cette référence. En plus, j'aime beaucoup cette référence européenne. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Ce que j'aime, c'est le souci à tous les niveaux de ce travail. Je pense que alors qu'ils sont en train d'enregistrer, ils doivent déjà se dire comment la chanson va apparaître sur scène, comment la pochette peut traduire ça. Peut-être c'est la démarche inverse, peut-être qu'il y a une idée de pochette et qu'on va faire la chanson, les chansons en fonction de la pochette. Je sais pas, ce serait curieux de poser la question à Hank. Parce que ce qui est bien aussi chez lui et ce qui nous différencie, même si je suis quelqu'un de qui travaille aussi beaucoup l'aspect visuel et graphique, parce que c'est mon deuxième dada, quoi. Comme je disais tout à l'heure, c'est très structuré en fait. C'est ce glissement qui fait qu'on ne s'éloigne pas. Et je dirais même que c'est un peu comme si, au fil du temps, dans les derniers albums, ils avaient. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est de plus en plus. J'arrive pas à le définir. C'est de plus en plus précis et c'est faux parce que je trouve que c'est de plus en plus aventureux en musique. Mais les pochettes sont de plus en plus structurées alors que la musique l'est de moins en moins. Et ça m'étonne. Ces pochettes au cordeau avec des petits détails comme ça, tac, 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 très limite architectural. Et en même temps, cette ouverture
musical que dont je parlais tout à l'heure, quoi, vers l'expérimental, quoi, de plus en plus.
Je peux te dire comment ça s'est passé ?
Oui,
parce que ça t'intéresse.
Bien, ouais.
C'est tout des impros.
Ouais. C'est ça, d'accord. C'est intéressant parce que je me posais la question à cause de cet aspect très structuré, justement de sur scène, de mise en scène, de pochette et tout ça. Je me disais jusqu'où leur musique est-elle réfléchie. Et je suis content d'apprendre que c'est l'impro. Ça me fait plaisir.
Je crois qu'ils sont aussi à la recherche d'un challenge chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ?
Ouais. Ils s'entendent tellement bien, en plus, je pense que c'est ça aussi. On se connaît depuis des années comme ça, entre musiciens. Ça aide pour ça, quoi.
Ouais. Petite fleur de 17 ans, tu te baisses d'illusion. Et moi je pleure, mais en t'évitant. Cette triste vision, oui je sais, je fais fausse route.
Avec la discographie qu'ils ont aujourd'hui et les chansons connues qui trimballent, ils pourraient à chaque fois faire une tournée avec les 20 chansons que les gens préfèrent. C'est la tentation facile pour remplir des salles. Et j'ai l'impression qu'avec eux, s'ils faisaient ça, ça viderait les salles. j'aime bien ça, quoi. J'aime leur public pour ça et j'aime leur démarche pour ça aussi, quoi. Mais c'est un sacré travail, c'est un long travail et c'est aussi comment dire, on sait qu'on se prive de choses en agissant ainsi, quoi, de succès sans doute, ouais.
Mais c'est quand même des artistes à la fin.
Je fais du blabla depuis une heure pour rien. C'est une démarche artistique, point. C'est ça. Un artiste, ça n'écoute que lui. Et puis après, c'est... voilà ce que j'ai fait. Est-ce que ça vous plaît ? Et c'est pas « je vais vous plaire ». Et c'est là où il y a toujours une confusion dans les démarches artistiques et l'artiste et le rapport entre l'artiste et la société de consommation ou le producteur ou quoi que ce soit. C'est, voilà. J'ai ça en tête, laissez-moi l'aboutir et on verra bien ce que ça fait. Et c'est tout, quoi. C'est sans doute pour ça que je les aime, mais c'est des artistes. Et s'il faut un album que je juge, donc c'est subjectif, moins bon, eh ben ça me plaît quand même. Ils cherchent et il se trouve que ben voilà, ça représente eux à ce moment-là.
J'ai passé des heures dans ce train et j'ai traversé Bruxelles en chemin, bientôt Paris, oui, je reviens. Mais les ombres des tracteurs à travers près et ma vie qui change m'ont un peu troublé. Je fais comme si tout pouvait arriver. Je me demandais quel genre de livre j'aimerais lire dans un train si j'en éprouvais le désir. J'ai pris ma vie avec quand je pense à toutes ces choses que j'aime tant, au centre Pompidou, passer du temps, une nature morte entre deux mouvements. Adieu, adieu, sweet Bahnhof. Le train de mes pensées s'égare Adieu, adieu, sweet Bahnhof. My train of thought is leaving tonight. Une flèche, me voici, gare du Nord. Entre des rues aux maisons comme des fjords. Et la nuit descend sur Paris. Ah, l'hôtel d'Angleterre, je suis revenu. Dans un lit pour de la regard perdu. Vers le plafond, quelle sensation. Me revoilà. Adieu, adieu, sweet Bahnhof. Le train de mes pensées s'égare. Adieu, adieu, sweet Bahnhof. My train of thought is leaving.
Christophe Comte, journaliste à Libération, Radio France Inter, auteur et réalisateur de documentaires. Nous le rencontrons dans un café à la place de l'Odéon à Paris.
Alors, je pense que j'ai connu les Nietzsche de manière impressionniste dans les années 80, où j'entendais certains de leurs morceaux les plus connus dans des émissions un peu spécialisées à la radio. Mais je connaissais le nom, j'avais lu des chroniques dans les années, début des années 80, depuis les premiers albums. Mais vraiment là où j'ai commencé à m'intéresser au groupe, c'était au début des années 90. À l'époque où le groupe a été aussi peut-être un peu mieux exposé en France. Il passait très souvent en concert. Et certains des albums, notamment Ting, ont été quand même des albums très marquants dans les Un Rock, pour lequel je travaillais à l'époque. C'était un des groupes qu'on suivait très régulièrement. Il y a eu beaucoup d'interviews et je crois que Ting, à l'époque, était le disque du mois. C'était un groupe pour lequel on avait une véritable affection et fidélité depuis... Après, j'ai suivi leur carrière, leur discographie autant que possible parce que je dois bien avouer qu'il y a des albums à côté desquels j'étais passé parce qu'à un moment, il y a eu une accélération. J'ai l'impression qu'il y en avait un tous les ans et peut-être que je suis passé un peu à côté de certains, mais c'est toujours un groupe pour lequel j'ai eu une affection très grande. Il fait partie, pour moi, des 3-4 groupes qui ont vraiment donné une image de la pop musique presque parfaite, quoi. Pour moi, il y en a trois, et qui sont probablement mes trois groupes favoris, en tout cas dans ce registre-là. Il y a Sparks, il y a Ecstasy et Nits. Pour moi, c'est trois groupes qui ont une démarche qui n'est pas la même, mais qui appartient à la même catégorie, quoi, de musique, ou en tout cas de conception de la musique.
Ce trio de groupes que tu as nommé, il y en a deux certainement qu'on pourrait dire qui font partie de cette famille de groupes là, qui auraient fait un même chemin comme les Beatles.
Bah, c'est ce qu'on a souvent l'habitude de dire, c'est-à-dire que les Nits, c'est les Beatles hollandais. Alors après, ça dit tout et pas grand-chose, parce que la Hollande n'est pas un pays qui est sur la cartographie de la pop extrêmement marqué. Je connais assez peu de groupes hollandais. Les Nits, pour moi, ont presque représenté la Hollande sur la scène, disons, rock indé, pop indé des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'autres depuis. Vraiment, pour moi, ils symbolisent ça, et c'est vrai que au-delà de leur appartenance géographique, leur langage, pour moi, est vraiment celui de la pop dans ce qu'il a de plus parfait, de plus abouti, parce que pour moi, cette conception de la chanson telle que eux la réalisent, elle appartient vraiment à cette tradition qui est celle des Kings, qui est celle de McCartney plus que de... Bizarrement, Hank, il a la voix de Lennon, mais il compose comme McCartney. Et puis Ecstasy et ce genre de groupe, c'est-à-dire que ce sont des chansons déjà qui racontent une histoire, qui sont presque des objets en soi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des confessions laborieuses comme on peut en voir dans plein de groupes. C'est pas forcément mal, d'ailleurs, mais eux, il y a quelque chose d'ailleurs, quoi. C'est-à-dire que c'est pour moi, comme Ecstasy, c'est... Je pense que leurs morceaux, même quand je ne comprends pas ce qu'ils racontent, je sais qu'ils sortent, ils posent un décor, et que les chansons sont conçues à l'intérieur de ce décor, un peu comme une sorte de, je ne sais pas, une bulle vraiment, quoi. Et c'est ça que je trouve assez fascinant chez ce genre de groupe.
Tu les as jamais vus live à ce moment-là ?
Si, je les ai vus. J'ai vu plusieurs concerts à cette époque-là. Et d'ailleurs, je dirais que presque au-delà de la musique elle-même, c'est l'aspect totalement inédit pour moi de la scénographie des concerts des Nits qui m'a impressionné vraiment, quoi. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu ça sur scène. J'avais l'habitude de voir des groupes qui arrivaient avec un batteur, un guitariste, un bassiste qui se mettaient en ligne et qui jouaient. Et là, j'arrivais à un concert où je voyais une scénographie qui était digne d'un ballet, quoi. Et j'ai vu des concerts absolument somptueux, je me disais. Mais alors depuis, il y a eu d'autres groupes qui ont fait ça. Mais à cette époque-là, pour moi, en tout cas, je ne voyais pas d'autres groupes qui avaient une telle scénographie et qui apportaient un tel soin déjà à la qualité du son sur scène, qui était parfaite, et puis à cette espèce de magie presque de surréaliste des décors. Et je me souviens d'un concert où il y avait une espèce de cône comme ça, où il montait dedans, où il dépassait de la tête d'une immense pyramide et tout ça. Je trouvais ça mais magnifique. Et d'ailleurs, le live qui était sorti, qu'on trouvait en vidéo à l'époque, m'avait donné cet aperçu-là. Je m'étais dit, mais non seulement ce groupe écrit des chansons qui ressemblent à rien d'autre, mais en plus, visuellement, ils ont largement 15 ans d'avance sur tout le monde, quoi. Et quand j'ai vu après d'autres concerts qui empruntaient un peu cette voie, là, je me suis dit, ouais, quand même, ça a été des précurseurs en santé chez eux, un travail presque de plasticien qu'on voyait déjà dans leurs chansons et qu'on retrouvait dans leur scénographie. Tout ça était extrêmement élaboré et c'est ça qui m'a plu aussi chez ce groupe. Et moi, j'ai toujours trouvé que leur démarche globale était presque au-dessus du reste de la production. Il y a un truc assez conceptuel là-dedans qui, moi, me plaît bien. Quoi. J'aime bien le côté Bauhaus, Zénith, j'aime bien leur côté minimaliste. Je trouve que c'est quelque chose qui me parle. Quoi. Et je comprends aussi que ça puisse les desservir, au fond. Parce que je pense que c'est un groupe qui aurait pu avoir des tubes énormes, qui aurait pu avoir, enfin, qui en a eu quelques-uns, mais qui aurait pu avoir peut-être une plus grosse audience s'ils avaient été moins arty, quoi. C'est-à-dire que s'ils avaient moins soigné le truc, quoi. Ça les... Je pense qu'il y a un certain public qui n'est pas forcément prêt à ça, quoi.
Mmh. Ouais, mais en même temps, c'est eux, quoi. C'est...
Ah non, mais c'est eux. Ils ont bien fait de continuer dans cette voie. Et... Après, ça fait maintenant plus d'une décennie que je ne les ai pas vus en concert, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble maintenant. Mais bon, en tout cas, à une époque, je pense que ce groupe a été vraiment parfait à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la composition, au niveau des mélodies, de la production, du visuel, des clips, tout était parfait, quoi.
Je trouve que quelque part, le mot groupe n'est pas assez pour ce que font les Nits. En fait, on a l'impression d'être confronté à une espèce de projet d'art qui dépasse un peu les limites de ce qu'est la musique pop.
Je suis assez d'accord, parce que je pense aussi que c'est ce qui a été pendant très longtemps et qui est encore le cas, c'est qu'on est vraiment sur une conception dans le rock, conception assez primitive de ce qu'est un spectacle. C'est-à-dire que très souvent, on est avec des gens qui arrivent plus ou moins déguisés, mais qui font un show qu'on a déjà vu plein de fois. Et je trouve que ce qu'ont amené ce genre de groupe, c'est cette dimension plasticienne, en fait, mais sans pour autant faire de la musique expérimentale. En faisant de la musique populaire, en faisant des morceaux, pour certains d'entre eux, qui peuvent être écoutés par n'importe qui peuvent passer sur toutes les radios, mais avec une exigence en termes de graphique, je dirais, globale, conceptuelle, plus importante. Ce qui peut laisser les gens un peu en dehors, parce qu'on peut aussi avoir l'impression que c'est un peu un télo, que c'est un peu froid, ce qui n'est pas le cas. Parce que je trouve que justement, ce qui est assez intéressant chez eux, c'est pas Kraftwerk, quoi. Kraftwerk, qui a un côté presque mécanique dans leur scénographie, sont pareils aux cordeaux et tout ça. Mais c'est vrai que quand on les voit, on accepte le fait qu'on est dans un truc totalement inhumain, finalement, où les gens, les musiciens sont presque des robots, où la musique joue toute seule. Les Nits, c'est pas ça. On est dans un truc qui est assez charnel, qui est très chaud, qui est très chaleureux, qui est très, très incarné. Mais il y a ce côté, probablement, qui fait partie de leur culture hollandaise, quelque chose qui se rapporte à ce qu'est la culture, ou en tout cas à ce qu'est la représentation en Hollande, et puis de leur culture personnelle, c'est-à-dire leur culture, ce vers quoi ils vont, ce qui les intéresse. Pour moi, c'est presque cette perfection qu'il y a chez eux, ce côté presque tellement abouti, qui fait que peut-être qu'à un moment, ça devient un peu abstrait pour beaucoup de gens, quoi. Et qu'un groupe comme ça, qui a eu du succès à une époque quand même, qui a eu quelques tubes, est devenu finalement un groupe qui n'est suivi que par des fans, quoi. Et qui, le public lambda ne sait même plus que ça existe. Ou ignore complètement l'existence. Et c'est marrant parce que comme on devait se rencontrer, j'ai posté un truc hier sur Twitter, un morceau des Nits. Et j'ai vu plein de gens qui disaient « Oh là là, j'avais complètement oublié ce groupe. Ah, mais ils sont fantastiques. Je viens de voir qu'ils passaient en concert au Trianon en mars. » Et d'un coup, ça a réveillé un truc chez plein de gens qui avaient peut-être oublié ce groupe. Et c'est étrange hein, quand même, parce que je pense que c'est un groupe qui est très endurant, qui a fait plus de 25 albums, quoi. Qui est présent finalement, si on cherche un peu, il suffit d'aller sur les plateformes pour voir qu'ils ont une production quasiment régulière depuis de nombreuses années. Mais bon, ils sont bah, ils sont plus âgés, les gens passent à autre chose, ils oublient qu'ils existent, et voilà, ils font partie du paysage, mais les gens savent même plus qu'ils font des nouveaux albums, quoi, ce qui est un peu dommage, quoi.
Ah, y a ce côté européen qui m'intéresse encore. Donc on est européen, c'est un groupe qui n'a jamais beaucoup tourné ni aux États-Unis ni en Angleterre.
Ouais.
C'est pas grave pour ce groupe, mais il y a quelque chose qui démontre que ça a un caractère différent européen.
Oui, cette dimension européenne est assez marquante et assez remarquable chez Nietzsche. Je pense que ils n'ont pas choisi d'être hollandais et probablement que ça aurait été plus, disons, rentable pour eux d'être anglais. Mais, de fait, je pense qu'ils n'auraient pas fait cette musique s'ils avaient habité en Angleterre. Et cette musique-là est presque représentative de cette Europe centrale aussi, qu'on a retrouvée dans la pop assez souvent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des groupes comme ça qui ont incarné ça, pas forcément d'ailleurs des groupes, mais aussi des labels. Enfin, il y avait quelque chose de ce triangle un peu entre la Belgique, la Hollande, d'un certain son assez sophistiqué qui prenait pas, disons, le rock comme quelque chose d'immature et d'adolescent, quoi. Il y a tout de suite un truc très adulte, mais très adulte sans être prétentieux, très adulte dans le sens où ça ne joue pas sur cette carte un peu, voilà, du mythe du rock'n'roll comme, ou du truc un peu comme il y a en Angleterre ou aux États-Unis d'une certaine façon. On est tout de suite dans un domaine où la culture est importante, quoi. C'est-à-dire que les références, on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Si on cite des références un peu pointues, on estime que les gens sont assez capables d'eux-mêmes pour aller les chercher. Donc ça, c'est un groupe parmi quelques-uns comme ça, qui ne prend pas les auditeurs pour des imbéciles. Et ça, je trouve ça assez bien. Et cette dimension européenne, je la ressens très fort chez eux, parce que je pense qu'aussi, cette musique européenne des années 80, notamment, elle a été assez importante, parce qu'elle est au moment aussi où cette idée de l'Europe se construit, quoi, d'une certaine manière. Et que, mine de rien, il y a eu plusieurs foyers comme ça. Il y a eu l'Allemagne dans les années 70, très très forte, où il y a eu une espèce de table rase de la musique et où des groupes comme Cannes et tout ça sont arrivés et ont pris les choses comme s'il ne s'était rien passé avant eux-mêmes, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez remarquable. Mais les Allemands, peut-être, avaient des raisons d'oublier leur histoire. Et chez les Hollandais, chez les Suédois, chez des gens comme ça, je pense qu'il y avait une forte attache à ce qu'était l'idée d'une Europe, quoi. C'est-à-dire que ce soit un continent où, mine de rien, avec l'histoire qu'il habite, avec tout ce qui s'est passé de tragique ou de fantastique dans ce continent-là, ce vieux continent, ça reste une sorte de terrain quand même assez fertile pour créer quelque chose qui sorte du sempiternel, le axe anglo-saxon, anglo-américain. Et cette musique-là, elle peut pas, c'est ce que je disais, elle peut pas être née ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'elle est, elle peut pas avoir été faite autre part qu'en Hollande, quoi. Je sais pas comment le dire, mais ça me paraît tellement évident, même ne connaissant pas très bien la Hollande, mais j'y suis allé quand même quelques fois, à Amsterdam. On voit la ville, la manière dont elle fonctionne. Ça ressemble à la musique des Nietzsche, quoi. Et c'est ça que je trouve assez génial, quoi.
Marc Tenon, ex-journaliste qui, pendant des décennies, a travaillé dans l'industrie musicale en Belgique chez Virgin, en France chez Virgin Publishing et chez Barclay, qui a aussi fondé un label indépendant nommé Atmosphérique. Nous le rencontrons un matin dans un café d'un cinéma vide dans le 15e arrondissement.
Je les connais depuis 79. Le premier morceau, c'est un 45 tours que j'avais acheté, qui est Tutti Ragazzi. Et j'avais la chance d'habiter Liège, qui est à côté de Maastricht, donc c'est près de la frontière hollandaise. Et ils sont venus très tôt faire des concerts à Liège. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de groupes de rock qui venaient à Liège. On a eu Van de Graaff Generator, on a eu Alan Stivell, on a eu Téléphone. et Lenitz, et Grupo Sportivo aussi, un autre groupe hollandais. Donc ça a été un des premiers concerts de rock que j'ai vu. J'avais 20 ans. J'étais très fan de pop, très fan des Beatles, et il y a un autre groupe que j'aimais beaucoup qui est XTC. Et pour moi, les Nits, c'était les XTC hollandais. Et j'adorais l'humour aussi, puis sur scène, ils ont toujours été extrêmement originaux, et je les ai suivis vraiment toute ma carrière. J'ai monté un label indépendant qui s'appelait Atmosphérique, et je continuais à aller voir les concerts des Nits. Et le producteur français des concerts des Nits, c'était le manager de la Mano Negra, Bernard Batzen, qui est devenu un ami. Et un jour, il m'a appelé, il savait que j'aimais beaucoup les Nits, il m'a dit, voilà, ils avaient été très longtemps chez CBS, chez Sony, ils n'ont plus de maison de disques, tu as un label, est-ce que ça te dirait de sortir leur nouvel album ? Et c'est ce que j'ai fait. C'était vraiment très très chouette, c'était les nuits, et je crois qu'on est sorti, il faut que je vérifie, Doing the Dishes aussi, l'album qui a suivi après. Alors c'était compliqué parce qu'on était déjà en 2005 et il y avait déjà la crise du disque, donc c'était, je savais que ce ne seraient pas des grosses ventes de disques, je ne pense pas avoir gagné de l'argent, je crains même d'en avoir perdu, mais j'étais très content de pouvoir contribuer parce que j'étais persuadé que c'était vraiment des gens... qui méritait d'être plus connu que cela. Et il y a eu des gens chez Sony qui les avaient beaucoup aidés en France, et puis parce que dans ces grandes maisons-là, quand on descend en dessous d'un certain seuil de vente, les gens abandonnent. Moi, j'ai essayé de faire un travail avec des attachés de presse indépendants, et je crois qu'on a eu une belle notoriété. Ils n'ont pas peur de creuser leur chemin. Ils ont un public culte en Europe, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, un petit peu en France. Et ça, comme ils sont autonomes, ils ont été, c'est très intéressant. Hein, les Nits, je crois, était un des premiers groupes à être autoproduits. Et si on compare avec XTC, par exemple, XTC, ils se sont arrêtés parce qu'ils avaient des dettes chez Virgin, parce qu'on avait misé, c'est comme Prefab Sprout. C'est des groupes sur lesquels les maisons disques avaient misé beaucoup d'argent. Ils se sont laissés emporter avec des gros clips, etc. Alors que les Nits, pour les Nits, ça a toujours été « small is beautiful ». Mais ils ont pu garder leur indépendance, leur liberté. Et je crois que c'est ça qui a fait leur chemin. Puis ensuite, ils ont assumé leur âge. C'est plus des petits vingtenaires bondissants. C'est des gens qui ont 60 ans et qui assument leur âge. Je trouve que c'est assez exceptionnel, hein. L'amitié entre les trois, qu'ils continuent, et les quatre, puisqu'il y a Ad, leur manager, qui pour moi est, je pense, leur ingénieur de lumière, etc. C'est une famille. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Je pense qu'ils étaient très, très en avance sur le mode de fonctionnement qu'ont les artistes indépendants aujourd'hui. Mais moi, je pense, parce que ça fait 30 ans que je suis directeur artistique, j'ai eu un label pendant longtemps, et je sais d'expérience que quand un artiste... pour avoir du succès, il faut le vouloir, pour avoir du succès grand public. Et c'est pas tellement une question de concession, parce que moi, j'ai travaillé avec des gens comme Louise Atta, qui n'a aucune concession dans leur premier album, qui a été leur gros succès. La Mano Negra, c'est pareil. Il y a une volonté de faire des choses inconfortables et de travailler très très longtemps sur un même projet jusqu'à ce que le public adhère au projet. Les Nits, ils avaient leur vitesse de croisière et ils produisaient, ils aimaient produire de nouveaux sans peut-être, et c'est peut-être une frustration que moi je peux avoir pour eux. Alors j'étais pas leur label, j'étais que leur label en France. Mais moi je sais que ils auraient eu une autre carrière s'ils avaient décidé d'avoir une autre carrière. Mais c'est leur choix et c'est respectable.
Nous partons pour Lyon pour y rencontrer Agnès Guéraud, une philosophe, journaliste et auteure, compositrice, interprète française. Elle est la fondatrice du projet musical La Féline. Et nous retrouvons aussi Richard Robert, directeur et programmateur de l'Opéra Underground de Lyon, où a lieu notre rencontre.
La première fois que j'ai entendu les Nits, je ne savais pas que c'était les Nits. C'est-à-dire que j'ai vu un extrait de concert, enregistré donc à Lyon, où ils chantaient « The Dream ». Et j'étais fasciné par cette chanson, par ce groupe. Et je n'ai pas su pendant longtemps qui était ce groupe. Et plusieurs fois, comme un interlude, il passait ses extraits de concerts. Et plusieurs fois, je suis tombé sur cette chanson sans tout, et toujours comme un mystère. Et finalement, par le plus grand des hasards, et je pense que c'est une grande constante dans, quand on est amoureux des Nits, le hasard tient beaucoup de place. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai emprunté par attirance de la pochette Hat. Et je l'ai mis sur la platine vinyle en rentrant et j'ai failli tomber à la renverse en entendant cette chanson qui était The Dream et qui était cette chanson après laquelle je courais depuis quelques mois. Et de là, j'ai tiré le fil et je n'ai jamais cessé de le lâcher, ce fil. Et si je dois, ce qui est très compliqué, cette question, qu'est-ce qui nous plaît chez les Nits, parce que ça ouvre beaucoup de portes, mais il y en a quand même peut-être une qui pourrait résumer peut-être les autres. C'est que, puisque maintenant tout ça a 40, mon Dieu, la découverte, ça devait être fin des années 80, donc oui, il y a 30, 35 ans, presque 40 ans maintenant, que j'ai entendu les Nits pour la première fois, c'est que j'ai l'impression que ce groupe accompagne mon expérience, pas la seulement la mienne, nos expériences humaines de vie. Et c'est en cela que pour moi, c'est d'ailleurs plus qu'un groupe de pop, c'en est un, mais ça va au-delà de ce champ-là. C'est une expérience, c'est une traversée. Je ne crois pas à la providence ni en un dieu, mais je remercie en tout cas la force qui m'a fait venir sur Terre en même temps que ces gens-là. Et qui fait que je vieillis avec eux, même si je suis un peu plus jeune qu'eux, je vieillis avec eux et c'est génial, comme c'est génial de vieillir, d'avoir vieilli avec Leonard Cohen, par exemple. Je les mets dans la même catégorie, pas par hasard, pour le coup. Mais voilà, si je dois vraiment tout résumer en une phrase, c'est ça. Je suis heureux de vivre et vieillir en même temps qu'eux, même si c'est avec un petit décalage.
Alors moi j'ai découvert les Nits beaucoup plus récemment, quoi qu'il y a fort longtemps, c'est-à-dire dans les années 2000. J'avais déjà une vingtaine d'années et ils m'ont été transmis par le compagnon avec qui je vis toujours aujourd'hui, par Tristan Garcia. Et ils m'ont été transmis avec l'idée qu'il s'agissait quand même d'un trésor, quoi. D'un véritable petit trésor. Et je me souviens, le premier morceau qui m'avait marqué, c'était In the Dutch Mountains. Et donc, bien sûr, en découvrant la musique, j'apprenais aussi qu'ils étaient hollandais, je voyais cette pochette de disque et évidemment cette blague dans le titre. Et c'était une époque où moi, je faisais un doctorat de philosophie sur Adorno et sur un livre comme ça qui cultive le paradoxe également et qui s'appelle La dialectique négative. Et en fait, ce mélange de légèreté, de facétie et de, comment dire, de sens du paradoxe qui en même temps pouvait exister dans une chanson épique, mais épique miniature, quoi, comme une espèce de, comme les bateaux comme ça qu'on ouvre à l'intérieur des bouteilles. Je trouvais ça, c'est ce qui m'a attiré avec ce sentiment qui est resté pour moi d'une sorte de force. Il y a ça qui peut-être m'attire beaucoup dans cette musique, mais il y a plein de choses qui est un mélange d'extrême fragilité. Enfin, je trouve qu'au fond, c'est une musique très vulnérable et à la fois incroyablement maîtrisée, quoi, parce que cette ambition-là, même de faire de l'épique à l'échelle d'une petite chanson pop. Je dis ça sans mépris pour la pop, hein. Richard le sait. Au contraire, c'est peut-être l'art le plus facile à écouter, le plus difficile à produire. Mais en tout cas, cette découverte, c'était un petit peu sous le signe de cette intelligence en fait, qui se dégageait de cette musique. Une musique qui soit à la fois complètement mélodique, rassurante, enfin bienveillante, il y a quelque chose qui est très accueillant et en même temps intelligent. C'est comme ça que j'ai découvert les Nits. Et maintenant que ça fait 20 ans que je les écoute, que j'ai écouté d'autres albums, que j'ai perçu la déclinaison de ce jeu entre leur intelligence et leur cœur, je partage ce sentiment que tu as, Richard, d'aimer vieillir avec eux. Alors, moi, je me vois plus jeune, vraiment plus jeune qu'eux, mais ça me donne comme un guide, à la fois pour l'humaine que je suis, mais aussi pour l'artiste. C'est-à-dire que, y compris le fait que ce soit un groupe finalement méconnu par rapport à l'importance de la musique qui a été produite par eux, est quelque chose qui renforce ma propre conviction de musicienne de continuer à faire des choses exigeantes, même si elles ne sont pas si reconnues que ça. Enfin, y a un petit effet comme ça de miroir. Ça peut paraître un peu narcissique, hein, mais en tout cas, ils me servent aussi de guide artistique. Pour plein d'autres raisons aussi, hein, cette façon aussi de ne pas du tout se limiter à parler toujours des mêmes choses. Enfin, je veux dire, ils vont parler d'une... Enfin, au fond, ça parle toujours de sentiments et d'une psyché complexe, mais voilà, ça passe. Les médiations objectives sont infinies, autant qu'elles peuvent l'être pour un romancier. Et ça, d'avoir introduit cette dimension pratiquement romanesque, de pouvoir introduire des descriptions dans une chanson pop, c'est pas évident. Il n'y en a pas tant que ça, si on écoute les grandes chansons très connues, les plus mainstream. C'est hyper dur de consacrer un moment du chant à dire, oui, alors là, il y avait ça sur la porte. Enfin, il n'y a que McCartney qui se permet ça. Voilà. C'est cette liberté aussi d'introduire la narration, la description du monde dans l'expression, dans la pure expression, qui est aussi une pure expression émotionnelle. Enfin, voilà, c'est qu'une amorce, mais des choses qui voilà, m'inspirent et me guident, en fait, chez eux.
J'ai ouvert plein de portes en même temps, je réalise.
Il y a plein de courants d'air, c'est bien.
Ouais.
Il y a quand même quelque chose qui se dégage de tout cela, parce que vous avez employé plein d'adjectifs qui parlent de leur musique. Et tout ce que vous avez dit semblerait que ça définit un groupe qui évite les clichés.
Oui, c'est le groupe qui s'est naturellement extrait des clichés, parce que je n'ai même pas l'impression que ce soit un combat du tout pour eux. J'ai pas ce sentiment-là, en tout cas, et que ce soit même une question. C'est-à-dire que c'est vraiment intégré dans leur manière d'être et de travailler. Enfin, moi, je les vois plus, et je sais que la métaphore est un peu téléphonée, un peu évidente, parce que Hank a cette formation de peintre et de vidéaste aussi, mais je les vois plus comme des artisans ou des peintres dans leur atelier. Enfin, d'ailleurs, leur très regretté studio Werf était de toute évidence un atelier. Et peu de groupes ont ça, en fait. Un lieu qui est un lieu de vie et de création, comme peut le faire un sculpteur ou un peintre, ou il y a certainement d'autres cas où on s'enferme dans un atelier. Ça pourrait être un luthier, ça pourrait être, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée du lieu. Et ça, pour moi, ça sort déjà du Barnum rock'n'roll. Je pense que, je sais pas ce qu'il y a au fond. Initié, j'ai pas la réponse à ça, tu l'as certainement, Eric, sur l'accroche première de Hank et de tous les autres, d'ailleurs, hein, pas que de Hank, puisque à la pop, au départ, parce que c'est quand même les Beatles, les Kings, enfin voilà, tous ces grands noms qui ont fait participer au spectacle aussi qu'est la pop. Et donc il y a quelque chose qui a dû les allumer, l'étincelle première aussi à cet endroit-là. Mais c'est vrai que, alors est-ce que c'est le fait d'être néerlandais et d'être peut-être un peu moins au centre du théâtre, du cirque global, qui fait que déjà on sait qu'on fait un pas de côté, on est de côté. Mais une fois Hank m'a dit, je me sens plus comme un, je crois qu'il prenait l'exemple de Magritte, il disait je me sens comme un peintre bourgeois à la limite, enfin j'ai pas peur de ça me fait pas peur d'être quelqu'un qui rentre chez lui le soir après sa journée à l'atelier, qui retourne le lendemain, qui va pas sortir avec les groupies, les copains, et prendre de la coke et boire des coups jusqu'à point d'heure. Peut-être qu'il l'a fait, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, de toute évidence, c'était pas l'un des objets des Nietzsche, et j'aime beaucoup ça, parce qu'il y a un tel souci de l'image au sens communication du terme, hein, dans le rock et la pop, que eux ont déplacé ce souci de l'image dans la musique et dans ce que disait aussi Agnès auparavant, c'est-à-dire cet art de... Moi, c'est un art du regard, pour moi, les Nietzsche, autant que de l'oreille ou des mains. C'est vraiment un art du regard parce qu'effectivement, il y a une force de transcription du monde, quel qu'il soit, sensible, humain. Voilà. Et donc l'image, c'est pas l'image, même s'ils sont très beaux par ailleurs d'ailleurs, hein, par ailleurs ils sont très beaux. Enfin, je veux dire, ils savent se tenir. Ils sont. Quand je dis ils sont très beaux, il y a une prestance. Voilà, c'est des gens qui s'habillent bien, qui, enfin, ils soignent leur image. Mais l'image, pour moi, à mon avis, qu'ils ont soigné le plus, c'est celle qui est dans la musique. C'est vrai, ils sont en dehors de tout ça.
Je veux bien parler du cliché. Disons qu'avec les Nietz, en effet, il y a ce geste. Voilà, de, comme tu disais, Richard, de transcrire le monde et de faire. Enfin, voilà, ils font des références à des œuvres sculpturales aussi. Il y a cette très belle chanson, A Touch of Emerald Moore, qui devient aussi une image de soi. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense justement qu'il y a un jeu enthousiasmant chez eux avec le cliché. C'est-à-dire que le cliché n'est pas évacué. Ils sont là, les clichés, au sens où. Qu'est-ce qu'un cliché déjà ? Un cliché, ça serait quelque chose qui a déjà été reconduit un nombre infini de fois dans notre culture et qui fait que nous le reconnaissons immédiatement, avant même qu'il apparaisse pleinement. Le cliché, c'est le reconnaissable, c'est le familier. Et les Nietz jouent énormément avec le familier. Il y a ce morceau, toujours sur The Dutch Mountains, qui s'appelle Good Night. Bon, voilà, une chanson qui dit bonne nuit. Enfin, ils sont pas les premiers, quoi, à faire ça, d'une certaine manière.
Et pas les derniers.
Et pas les derniers. Ils accomplissent quelque chose de complètement de l'ordre de l'évidence familiale, quotidienne. Et en même temps, voilà, c'est un cœur. Et puis ce cœur, il évolue, l'harmonie se déforme. Et tout à coup, on entre dans quelque chose qui est presque un signal vers une forme de musique contemporaine ou quelque chose d'assez inattendu, justement, dans la pop. Et donc là, c'est plutôt, voilà, en 3 minutes, on part du cliché, mais dans un cliché qui n'est pas justement... Parce que dans l'idée du cliché, il y a une espèce de dévaluation, on vient d'évaluer ce familier. Là, au contraire, il y a une espèce de... c'est ce que tu disais, c'est pas des rockers qui font flipper, c'est pas des rockers qui pour susciter le désir se rendent un peu étrangers à l'humanité, quoi. Là au contraire il y a quelque chose, y a rien de ce qui est humain ne m'est étranger, quoi. Il y a un petit côté un coste deux et comme ça
quotidien peut-être,
voilà, il y a pas de problème avec la banalité, avec la quotidienneté, c'est plutôt la manière dont cette banalité, cette quotidienneté et ce cliché, puisqu'on a affaire à une forme artistique, donc à une forme qui est justement une forme de représentation qui a déjà été entendue. On entend plein de références à d'autres musiques. Et bien sûr, tu parlais des Beatles, enfin, je veux dire, là, c'est... Et voilà, même au Velvet, enfin, ou à Cohen, bon, c'est... et pas que. Donc, ce que je trouve aussi infiniment touchant, et ce que je crois être le métier de faire de la musique populaire, c'est justement jouer avec ce cliché. En commençant déjà par ne pas le mépriser parce que c'est un cliché. Il y a une espèce d'aménité avec justement ce que la pop a de plus familier à offrir, mais qu'ils vont, voilà, tout à coup suspendre dans une espèce de, à une sorte de forêt de cristal à laquelle on ne s'attendait pas du tout, alors qu'on était au milieu de la foule tranquille parmi les gens normaux, quoi. C'est plutôt moi dans cette tension que j'éprouve leur génialité, et qu'à mon sens ils accomplissent ce qui est l'idéal de ce que nous permet la musique populaire, c'est que cette familiarité, cette évidence, cette immédiateté, cette bienveillance à l'égard de l'auditeur, elle l'emmène en même temps dans des cimes de esthétique complètement insoupçonnées au départ.
Ce que tu dis sur le cliché, mais le cliché quotidien, on pourrait dire le banal. Me fait faire un lien que j'avais pas du tout imaginé avec Pérec, avec l'infraordinaire de Pérec, c'est-à-dire comment tout d'un coup non pas s'intéresser à l'extraordinaire mais à l'infraordinaire, à ce qui fait la matière même d'une journée, d'un quotidien d'être humain, et dans ce recueil notamment il fait 250 cartes postales comme s'il les avait envoyées, enfin comme s'il les avait récupérées, récoltées, et donc il y a 250 fois la carte postale, ça pourrait être une chanson des Nietz. Il fait la liste des choses qu'il a mangées pendant une année, ça pourrait être le début d'une chanson des Nietz. Et cette attention attention effectivement à la surface apparemment banale de nos vies, il me semble partout, même dans les chansons épiques, comme tu disais tout à l'heure, dans In the Dutch Mountains par exemple, ou Neskio, ou je sais pas, enfin, qui sont des chansons quand même avec un souffle lyrique même, qui moi me touche énormément dans les chansons d'Ennis. Ce ne sont pas que des délicats miniaturistes, c'est pas seulement des orfèvres, et ça c'est vrai qu'il faudra le dire. Ça rejoint ce qui m'est venu tout à l'heure en disant j'aime prendre de l'âge, vieillir avec eux, parce que ça accompagne les moindres choses qui ne sont pas si moindres que ça, et ça leur donne un relief, une puissance, une intensité qu'on a peine à voir en permanence, et heureusement, sinon on serait peut-être aveuglé tout le temps par ce qu'on vit. Et c'est une forme, finalement, ça donne à l'ensemble de l'œuvre d'Ennis. Tu parlais effectivement de cette idée d'une œuvre. C'est comme un journal qui ne serait pas un journal, comme on l'entend au sens littéraire du terme, avec des entrées jour par jour. Mais finalement, à la fin, ça dessine quelque chose de cet ordre-là, en passant par plein d'angles possibles. Et je pense, là le lien je l'ai fait il y a quelque temps déjà à propos des Nietzsche, j'ai pensé à cette phrase d'un écrivain suisse d'ailleurs, qui s'appelle Maurice Chappaz, et qui avait tenté à un moment de faire un journal. Et il s'est rendu compte que c'était impossible, parce qu'il essayait de vraiment tout mettre, ce qui faisait la substance d'une journée, il voulait vraiment le mettre dans, et à un moment il a abandonné en disant c'est pas possible, on peut pas le faire. Et il disait c'était juste ma tentative de comprendre de quoi c'était fait cette vie qui passe si vite et qui dure si longtemps. Et dans l'Ennis, moi j'entends ça, c'est la vie qui passe si vite et qui dure si longtemps, et c'est important la longévité d'Ennis dans cette histoire. Parce que là, pour le coup, je pense qu'il y en a peu dont on peut dire de groupe pop, parce que je pense comme toi que c'est un groupe de pop. Mais ce qui leur donne peut-être aussi cette particularité et cette envergure dans le geste, parce qu'il s'agrandit comme un arbre d'année en année, c'est cette longévité, et une longévité qui est vivante, qui est pas, ils reviennent à la surface de l'actualité ces jours-ci. Bon, les Rolling Stones, à chaque fois qu'ils sortent un truc, ils font une tournée, on les ressort du placard. Moi, j'ai rien contre les Rolling Stones, mais enfin, quand je les vois, si je fais le comparatif, hein, ils ont une longévité encore plus grande, 60 ans, mais c'est une longévité un peu figée, enfin, comme le visage de Mick Jagger. Quoi. Il y a quelque chose qui bouge plus trop. Quoi. C'est un peu
moins arborescente.
Est-ce que ça vit encore? On a l'impression que c'est un peu des figurines qu'on ressort d'une vitrine, et surtout, je pense qu'aucun fan des Rolling Stones, même le plus... le plus grand adorateur aura bien du mal à sortir, une chanson des 20 dernières années qui le fait autant vibrer que les grands classiques. Alors que Ennis, moi, je ne me lasse pas. Le dernier album, il me fait autant d'effet que l'avant-dernier, que l'avant-avant-dernier. Alors que je sais qu'il y a des gens qui parfois décrochent, parce que peut-être il n'y a plus l'accroche pop de certaines chansons en apparence. Moi, je pense que ça reste un groupe de pop. Mais qui explore beaucoup, beaucoup de formes différentes.
Ah oui, oui. C'est ça qui est fou, c'est que là, on a affaire à une œuvre, en effet, qui est extensive, hein, qui est organiquement prolongée et qui donc donne le sentiment, évoque quand même une certaine idée de totalité, mais une totalité qui ne serait pas finie. On a envie, d'une manière ou d'une autre, de reconnaître, parce que c'est quand même le rôle des auditeurs et des fans et des critiques, de reconnaître l'ambition, comment dire, impressionnante, quoi, de ce travail qu'ils ont fait. Et ce dont il est difficile de s'emparer là-dedans, c'est que c'est une ambition sans prétention. C'est hyper dur d'être ambitieux sans être prétentieux. Il y a toujours la prétention, c'est le moment d'aveuglement, c'est l'ego trip, quoi, par rapport à l'ambition. Et c'est vrai que voilà, c'est la personnalité d'Inkovsté 2, quoi, c'est-à-dire c'est le type qui incarne un truc comme ça, une espèce de soleil discret, enfin c'est improbable.
Mais c'est pour ça que je trouve que l'incendie de leur studio est une chose absolument déchirante, elle l'est de toute façon, mais elle l'est encore plus parce que pour moi, C'est une maison qu'ils ont construite, en fait. Des fois, on dit, tiens, ce groupe a un univers, ou il a un monde, ce qui est déjà quelque chose de... Mais le motif de la maison chez Lenitz, il est récurrent, il traverse toute l'œuvre. Et je pense que l'ambition dont vous parlez, elle est quand même, construire sa maison, c'est pas rien. Enfin, moi, je trouve que moi, je suis incapable de le faire. Là. Donc, je trouve que c'est une ambition extrêmement, presque démesurée, en tout cas, une grande ambition, mais qui n'est pas une ambition monumentale non plus. C'est comme la chambre à soi de Virginia Woolf, quoi. C'est sa maison, la maison à soi. Ils ont réussi ça, et c'est pas fini. Une maison, c'est jamais fini, de toute façon. Moi, ce que j'aime dans les Nits, c'est cette très profonde légèreté qu'ils peuvent avoir, pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des moments de grande gravité, et la gravité, là, tout d'un coup, on descend effectivement au fond de la mine, et il y a des chansons de mine, il y a des chansons qui creusent chez les Nits, mais moi, en particulier, cette très profonde légèreté, je la ressens quand ils sont sur scène. Moi, c'est ce qui m'a... tout à l'heure, j'ai parlé de ma première expérience qui était à travers un écran de télévision. Mais même à travers cet écran, ce qui m'avait, en fait, aussi renversé, bouleversé, c'était comment ces gens-là étaient sur scène et ce qu'ils dégageaient d'une sorte de joie, mais ni jouée, au sens surjoué ou regardez comment on s'éclate. Non, c'était une vraie joie... de jouer, d'avoir trouvé ces choses-là ensemble et de les distribuer, et d'une manière effectivement absolument spontanée et sans masque, quoi. Enfin, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Hank et Robert Jan après un concert à Paris. Et je leur avais redit un peu, genre refait une déclaration d'amour comme ça autour d'une table, en leur disant c'est formidable ce que vous dégagez sur scène, de l'ordre d'une jubilation, mais d'une jubilation très intense, en fait, aussi. Donc, pas mièvre, pas niaise. Et ils s'étaient presque piqués un peu en disant « Ouais, enfin, il n'y a quand même pas que ça. » Il y a aussi de la violence dans ce qu'on raconte. Il y a aussi de la dureté dans les chansons qu'on a. Elle n'est pas affichée comme pareil. De la même façon que la joie n'est pas mièvre, la violence ou la dureté de ce qu'il y a sous les chansons, dans les chansons, n'est pas frontalement comme ça balancée à la gueule des gens. Mais elle y est. Elle est quand même là. Il y a des choses très dures dans ce qu'on raconte. Et effectivement, il y a des chansons... littéralement ou pas, parfois c'est vraiment des recoins où il faut aller un peu chercher la noirceur ou et pour le redire une fois encore avec eux, rien n'est jamais unidimensionnel, donc du coup l'humour il va se glisser aussi dans la noirceur et vice versa, enfin je saurais pas tellement définir l'humour des Nits en vérité. Je sais pas si le mot humour est juste, enfin si c'est celui-là qu'il faut utiliser, ou si c'est effectivement cette légèreté profonde. J'ai pas tellement d'autres choses en magasin, là. Après, il y a des vraies traces d'humour, marques d'humour dans Eating House ou des choses comme ça. C'est des chansons pour rire, et pour rire avec la musique. Mais Eating House, c'est une chanson terrible en même temps. On se fait bouffer quand même par la maison, donc...
Oui, c'est vrai que... il y a quelque chose de facétieux, y compris dans l'incarnation de... de Hank, hein, qui est en fait une espèce de, tout simplement, de prolongement de son extrême gentillesse, enfin, pour le peu que je l'ai rencontré. Et ça me fait penser que si cet humour est présent, au sens où il y a des moments de facétie, ça c'est clair, et en même temps, du désespoir. C'est-à-dire que c'est aussi l'humour qui vient là pour dire « on est foutu », mais je te mets quand même la main sur l'épaule, ça va aller. C'est un petit peu le petit sourire en coin, pas du tout narquois, il n'y a rien de narquois là-dedans, mais qui intervient comme une forme de réparation existentielle. Ça me fait penser à... il y a un texte comme ça du philosophe Kierkegaard sur l'humour qui est en fait un moment du désespoir. Alors, qui peut prendre une figure, voilà, c'est la figure de l'ironie dans le romantisme allemand, c'est vraiment l'ironie un petit peu très, spectaculaire, et qui, qu'ils connaissent, parce qu'ils sont très cultivés, parce qu'ils ont ce truc européen. Enfin, on sent que le romantisme européen, ça traverse les Nietzsche. C'est littérairement, je veux dire, et aussi philosophiquement, il y a du Kafka aussi. Ce sens de la miniature, c'est hyper kafkaïen. Les maisons voilà, qui mangent, enfin, il y a quelque chose, c'est des dispositifs horrifiques, kafkaïens, comme ça, à l'échelle, avec une espèce de discrétion et de facétie et d'imagination souriante qui est presque là pour dire que voilà, le malheur existe, mais on est là c'est un instant et on est voilà, on s'aime et ça va aller quoi. C'est un humour, c'est une facétie, la facétie de quelqu'un de je le vois comme un grand, une espèce de grand frère moi qui me dit ouais ça va aller quoi, everything is gonna be fine.
Me and my friend and his girlfriend are swimming in Telephone Lake, where willows are ringing. Out of the water a periscope snake says go to the place where the wireless balls break. Me and my girl and his girlfriend are driving through silence and sound. My sister is waving. She found a map full of stations and beams where rivers were drowned like electron streams. My friend and his girl hear the Doppler effect. They both disappear in the infinite shoe black. Me and my sister drive home with the blues. Now it look for the radio shoes. Now we can look for the radio shoes. Little red roses fall, they're far from heaven. Little red roses fall, far from heaven. Little red roses fall from heaven. Me and my friend and his girlfriend are skating on Telephone Lake. My sister is waiting at home near the wireless, but there is no sound. The periscope snake must have been drowned. We melt through the ice and never come back. We all disappear in the infinite shoe black. Through falling snow we walk home with the blues. Now we can look for the radio shoes. How we can look for the radio shoes.